Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement. Merci d'être là depuis le début si vous avez commencé avec nous à 9h. Et merci si vous êtes là depuis 5h du mat avec Julien Pierce. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la partie culture de l'émission et nous sommes ravis de recevoir un phénomène, la romancière Catherine Pancol. Elle vient nous présenter son nouveau roman Bed Bug. Et puis dans les indispensables, on va s'intéresser aux sorties ciné du jour. On est mercredi, c'est le jour du cinéma. Il sera également question de musique avec Vladimir Cosma et deux actualités pour le grand compositeur, un album et un grand concert. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous comme chaque matin, c'est votre journal de la culture, journal qui démarre par un nouveau prix littéraire.
Le prix Femina a été décerné hier et juste avant son attribution, dans votre émission, un de vos invités, Philippe Vandel, a fait un pronostic, écoutez.
C'est qui votre préféré?
J'ai pas de favori, mais...
Moi j'en ai un. Ouais. Par les routes.
Ah oui, Sylvain
Prudhomme. J'adore ça.
Oui, oui, grand livre. Oui, ah, oui. Ouais. Et il a pas encore eu de grand prix, donc c'est peut-être bien lui.
Ça serait bien.
C'était hier.
C'était hier. Visionnaire François Morel qui souhaite donc que l'élu soit Par les routes. Eh bien bravo, puisque c'est bien le roman de Sylvain Prudhomme qui a reçu ce prix très prestigieux. 8e roman de l'écrivain de 40 ans. Il a également reçu le 9 octobre dernier le prix Landerneau des lecteurs. Le roman sorti en août s'est écoulé jusqu'à présent à 8000 exemplaires. Sylvain Prudhomme qui a déclaré « C'est un livre où j'ai essayé de parler du désir de liberté qu'on a un petit peu tous. Un roman sur l'amitié, le voyage, l'amour. Le prix Femina du roman étranger a été décerné à l'Espagne Manuel Villas pour Ordessa et le Femina de l'essai à Emmanuel Lambert pour Giorno Furioso. J'ai un meilleur accent.
Ah oui, non.
Le jury du prix Femina a récompensé l'Irlandaise Edna O'Brien qui concourait dans la catégorie Femina étranger avec Girl pour l'ensemble de son œuvre.
Et on continue avec un retour Hélène, celui de la comédienne Marina Hans à la Comédie Française.
Après avoir effectué un passage express entre janvier 2006 et septembre 2007, la comédienne franco-britannique s'apprête donc à faire son grand retour dans la maison de Molière le 14 avril prochain. On la retrouvera dans un rôle qu'elle connaît bien et qui lui a valu d'être nommée au Molière en 2008. Il s'agit du rôle d'Isée dans Partage de Midi de Paul Claudel. La troupe jouera la pièce à partir du 1er juin prochain au Théâtre Marigny sur les Champs-Élysées, puisque la salle Richelieu est en travaux. Marina Hans sera aussi à l'affiche de Cyrano de Bergerac, dirigée par Denis Podalydès, toujours au Marigny, du 27 juin au 27 juillet. A noter également que deux autres comédiens rejoindront la Comédie Française prochainement. Clément Bresson, engagé comme pensionnaire de la Comédie Française à partir du 1er janvier prochain, et Cléna Clavaron, en tant qu'artiste auxiliaire, à partir du 1er décembre prochain.
Tout autre chose maintenant, on va parler cinéma, mais avec une chanteuse.
Vous reconnaissez ou pas?
Pas du tout, je le sais parce que j'ai le texte, mais j'aurais pas reconnu.
Eh bien, c'est la chanson de A Star Is Born, Bradley Cooper, Lady Gaga. Et dans ce couple, on s'intéresse à la chanteuse. Ouais. Donc, vous l'avez dit, Lady Gaga qui continue sa carrière de comédienne. Elle sera à l'affiche du prochain film de Ridley Scott et elle jouera Patrizia Reggiani, celle qui a commandité le meurtre de son mari Maurizio Gucci de la maison Gucci par un tueur à gages en 1995 à Milan. Vous savez, c'est l'histoire de la veuve noire.
Oui, je me souviens de ça.
Condamnée à 26 ans de prison. Elle a été libérée en 2016. Bon, rassurez-vous, Lady Gaga n'abandonne pas la musique. Elle prépare son 6e album que l'on attend début 2020.
Pardon, une annonce pour le festival Les Nuits de Fourvière qui se passe évidemment à Lyon.
Bon, les stars, elles sont quand même présentes hein, cet été dans les festivals. Après Céline Dion aux Vieilles Charrues, Lana Del Rey à Wheel of Green. Celui qui enflammera les Nuits de Fourvière à Lyon, eh bien c'est lui.
Là, évidemment, je reconnais, c'est Creep de Radiohead.
Exact, Creep de Radiohead, de Thom Yorke, c'est le chanteur qui sera présent. Il prendra place sur la scène du Grand Théâtre le 8 juillet prochain. Les billets seront mis en vente le 13 mars. À noter donc dans votre agenda, il y a 3 ans, la venue de Radiohead aux Nuits de Fourvière avait vraiment créé l'événement.
Mais là, ce sera Thom Yorke qui sera en solo, pas avec Radiohead.
Exactement, Thom Yorke.
Une animation qui montre les meilleures ventes de disques depuis 50 ans.
Une information de nos confrères des Inrock. C'est absolument incroyable. Une vidéo mise en ligne par YouTube qui, via une animation Elle, ça s'appelle Data is Beautiful. Représente le graphique de l'évolution des meilleures ventes de disques entre 1969 et 2019. Cette vidéo dure 10 minutes. Les années défilent et on voit les noms apparaître, changer de place, bouger. C'est complètement dingue.
J'adore ce genre de vidéo. Je connais ça avec Facebook, Twitter, tous les géants, les GAFA qui prennent la place les uns des autres.
Exactement. Et bien, c'est un peu pareil. Les Beatles restent numéro 1, par exemple, de 1969 à 1972. Puis ils perdent la première place et ils sont remplacés par Led Zeppelin, qu'on voit arriver au fur et à mesure de la vidéo. Michael Jackson, lui, dès 1980, reste en haut du classement. Après, d'autres noms apparaissent un peu de manière furtive. Ils sont en haut juste avec un tube, comme Psy, vous savez, Gangnam Style, pardon.
Ouais, bien sûr. Eminem. Le premier tube qui a fait 1 milliard de vues sur YouTube.
Exactement. Eminem devient très largement numéro 1 dès 2001 et ne se fera rattraper qu'à partir de 2008 par Rihanna. Et puis Rihanna, bien, elle se fait détrôner par Drake en 2013. Et aujourd'hui, Drake est numéro 1. Il y a derrière Ed Sheeran et Luis Fonsi. Bref, c'est captivant.
Ouais, et puis les forbans n'ont pas dit leur dernier mot. Autre chanson qui est en haut du classement et qui rapporte beaucoup d'argent.
Ça va nous rester dans la tête toute la journée. C'est génial. Il s'agit de la cantine coréenne Baby Shark, sortie en 2015, et son clip surtout. Cette chanson aurait rapporté 11 millions d'euros à son compositeur Kim Min-seok et à sa famille. Le clip a été vu plus de 3,8 milliards de fois. Elle est dans le top 100 des titres les plus vendus aux États-Unis. Bon, Baby Shark, c'est un phénomène. Il y a même un spectacle autour de cet univers. 25 millions d'abonnés sur la page YouTube. C'est un homme de 38 ans qui a composé la chanson et qui a fondé la start-up Smart Study Co. qui donc aujourd'hui atteint plus de 34 millions de dollars de chiffre d'affaires. Voilà, on peut.
Non, c'est très très connu. Je veux dire, les trucs qui cartonnent. Un disque cartonne quand il est acheté par des gens qui habituellement n'achètent jamais de disques. Et quand c'est transgressif, eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé avec Dur d'être un bébé, René la taupe et La danse des pingouins ou La danse des canards.
Des chansons pour enfants.
Exactement, voilà. Mais achetées par des adultes.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, on accueille Catherine Pancol, Philippe.
Bonjour Catherine Pancol.
Bonjour Philippe.
Merci d'être ici, vous êtes romancière, faut-il le dire, mais également phénomène d'édition, juste pour citer votre trilogie Les yeux jaunes des crocodiles, la valse lente des tortues et Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. C'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. En tout, vos livres sont traduits dans plus de 30 langues, y compris le russe ou l'albanais. Et là, vous publiez chez Albin Michel, votre 19e roman s'appelle Bed Bug, c'est l'histoire de Rose Robinson. D'abord, qui est Rose ?
Rose est une biologiste qui travaille au CNRS et qui étudie tout ce qu'on peut faire avec les insectes. C'est-à-dire qu'on arrive à... C'est en train de se passer maintenant et tout ce que je raconte sur les insectes est absolument vrai.
Ouais, vous êtes en train de me griller mes questions suivantes, mais okay. C'est pas grave, continuez.
Oui, je me tais.
Non, continuez. Elle bosse au CNRS, elle travaille sur une luciole.
Elle travaille sur une luciole qui va guérir, non seulement guérir le cancer, mais va permettre de guérir sans souffrance, c'est-à-dire sans perdre les cheveux, sans avoir des maux de crâne terribles, la peau qui démange. Enfin.
Pourquoi vous avez choisi... Je vais commencer par elle, alors, avant... Par ce milieu-là, pourquoi vous avez choisi ce milieu de la recherche médicale pour ce roman ?
Parce que je trouve ça passionnant, c'est comme de la science-fiction et ça arrive aujourd'hui et on va avoir les résultats dans 8 à 10 ans, parce que c'est très long.
Alors, elle vit avec sa mère, avec sa grand-mère, là aussi c'est des personnages hauts en couleur, on ne peut pas tout raconter, et elle flash sur son collègue Léo qui arrive de New York.
Oui, qui est un Cubain-Américain.
Ouais.
Et qui, lui, il y a un truc très sympa chez les chercheurs, c'est qu'ils travaillent tous ensemble. Tous les pays se mélangent, il n'y a pas du tout de compétition chauvine. Sauf au moment de déposer les brevets, où comme ça représente beaucoup, beaucoup d'argent, là, il vaut mieux se barder d'avocats et de connaissances juridiques. Mais sinon, il y a une grande coopération. Donc, elle voit débarquer Léo, elle va travailler avec lui pendant 6 mois à Paris, sans le regarder, parce qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait. Elle est très, très forte en recherche.
Elle n'a même pas remarqué que c'était un beau mec, alors que tous les autres ont remarqué ça.
Alors, tout le monde
Mais c'est quoi cette nounouille ? Ça n'existe pas dans la vraie vie.
C'est pas ça, elle est très concentrée.
Ah bon ?
Elle est très,
ça existe vraiment ? Ou c'est votre imagination de romancière qui fabrique ça ?
Non, je pense que quand on a une passion et qu'on est concentré sur cette passion, on ne voit pas ce qu'il y a autour.
D'accord. Donc, en fait, ses collègues, à elle, ne sont pas concentrés.
Ses collègues,
c'est parce qu'elles ont toutes remarqué que le type était très beau.
Elle travaille avec lui tout le temps. Bon. Donc, elle voit que sa luciole, elle voit tout ce qu'on peut faire avec sa luciole, elle suit les progrès de la luciole. Et donc, Léo, c'est juste un collègue de travail jusqu'au jour où elle est au restaurant avec lui. C'est leur dernier jour de travail. Il y a une copine qui passe et qui lui murmure à l'oreille, dis donc, il est vachement bien. si tu ne te le fais pas ce soir, tu me le files.
Ouais.
Et là, tout d'un coup, cristallisation, elle fait un pas en arrière, elle le regarde, elle se dit, c'est vrai qu'il est pas mal. Et c'est le regard de l'autre.
Puisque vous parlez de ça, Catherine Pancol, elle se parle comme ça, les filles, dans notre dos.
Ouais. Vous ne savez pas tout.
Ben non, je ne savais pas tout parce que je l'ai vu dans le roman, je ne savais pas, et elle s'envoie des SMS pour dire alors, tu le prends, tu ne le prends pas. Vous êtes passionnée d'entomologie ou est-ce que vous avez tout inventé au sujet des insectes ou vous avez travaillé avec des gens ?
J'ai travaillé avec le docteur Lupoli, qui est le spécialiste des insectes médicaments en France, et qui m'a fait lire beaucoup de documents et qui nous a traduits parfois parce que c'est très très compliqué.
Il y a des histoires complètement dingues. Une reine termite obèse qui vit en Afrique du Sud, elle est 70 fois plus grosse que son roi, je vous lis. Hein. Tous les deux enfermés dans la loge royale de 15 cm carrés dans l'obscurité totale, sans en sortir pendant 40 ans. Ouais. Et elle ne fait que pondre et lui ne fait que copuler.
Voilà.
C'est juste complètement fou comme vie, c'est horrible.
C'est là où je dis qu'être éjaculateur précoce dans son cas, c'est bien. Parce que...
Super, vous savez quoi, j'avais coupé ce passage en disant on ne peut pas lire ça sur l'antenne. Merci Catherine Pancol. Alors qu'il faut dire, le titre a un double sens. Bed bug, bug c'est l'insecte. Bed, ça se passe autour du lit. Ça ne se passe pas toujours comme il faut autour du lit. Elle étudie la vie sexuelle des insectes. Et sa vie sexuelle, quand même, elle a des fantasmes assez puissants. Votre héroïne.
Moi, j'ai voulu parler aussi du désir féminin. Je pense que le désir féminin est quelque chose de très, très compliqué et qui se fabrique dès l'enfance. Avec des expériences plus ou moins heureuses, plus ou moins bien vécues, avec des rejets, des abandons, des violences. Et c'est toute cette matière qui, après, va faire qu'on va être attiré par quelqu'un ou pas. Le désir vient de l'enfance.
Je veux dire, ce qui m'a vraiment étonné, c'est que je n'avais jamais lu des mots comme ça chez vous, Catherine Pancol. Elle va chez le boucher, Rose, elle le regarde en train de travailler, de préparer des paupiettes, et elle se met à divaguer, bien ficelée et bien ligotée, les mains dans le dos. Pas le droit de croiser son regard, sinon je te torchonne. Il lui tord les poignets, les plaque sur les omoplates, il dévide la ficelle, enchaîne nœud sur nœud. La cordelette lui cisaille les seins, il dégage un téton, puis l'autre, la ligote, la baïonne, la suspend à un crochet, lui ouvre les jambes, palpe son sexe, lui pince le bout des doigts, lui pince le bout des seins de ses doigts froids, les écrase, les frotte, mordit un mamelon, pas bouger. Il ordonne en lui tirant les cheveux de ses mains grasses. « Je veux pas t'entendre, t'as compris ? Sinon, la menace, toujours la menace. » Elle laisse tomber la tête sur sa poitrine, emplie d'un délicieux et terrifiant frisson.
Ouais, c'est l'histoire d'un fantasme.
Ouais.
C'est une description de fantasme.
Mais je vous imaginais pas en sadomaso, Catherine Pancol.
Bah, moi, je suis pas l'héroïne. Hein.
Ah bon ?
Je rentre dans la tête des personnages.
Oh, dis donc, ça m'a l'air très incarné, ça.
Non, parce que j'ai bien écrit. Hein. Je décris bien les choses.
Et modeste avec ça. Ça s'appelle Bedbug. Elle est avec nous jusqu'à 11h, Catherine Pancol.
Oui, notre invitée, la romancière Catherine Pancol. Votre métier, Catherine Pancol, c'est de nous raconter des histoires. Et bien, pour une fois, on va inverser les rôles. C'est Hélène Manarino qui va vous raconter, nous raconter une histoire, la vôtre. C'est votre portrait inattendu et c'est juste après ça sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et c'est l'heure du portrait inattendu d'Hélène Manarino, Philippe.
Catherine Pancol, est-ce que vous connaissez Hélène Manarino ?
Moi, je l'écoute tous les matins.
C'est vrai ?
Je sais qu'elle fait des portraits formidables.
C'est vrai ?
Je me demande toujours où elle va chercher les trucs.
Donc... Nous aussi, on se demande. Oui. Oh, la pression. Hélène, j'ai rien d'autre à dire, c'est à vous.
Bonjour, je ne suis pas la seule à le penser.
Merci beaucoup.
On est au moins deux déjà.
Il y a plus. Il y a beaucoup plus.
Alors, Catherine Pancol, je vais dévoiler ce matin vos petits secrets, des petits secrets, des habitudes afin de mieux vous connaître. Alors, vous avez déjà raconté beaucoup de choses, donc j'ai mené une enquête approfondie avec surtout des petits détails. Alors, évidemment, vous êtes une grande curieuse des autres, vous n'avez aucun tabou, tout le monde vous intéresse. D'ailleurs, vous avez déclaré « dans l'écriture, on peut tout se permettre ». Finalement, c'est aussi votre philosophie de vie, votre phobie, faire semblant d'ailleurs avec les autres et aussi avec vous-même. Vous adorez parler de politique pendant des heures, ce sujet vous passionne avec une de vos amies.
Non, j'y comprends rien.
Non, ça c'était l'affiche de Jean-Luc Mélenchon.
Continuez, Hélène, enchaînez, enchaînez. Vous aimez parler politique, alors j'ai des mauvaises sources.
Ah oui, ça non, là, ça là, non.
Vous avez... Très bien, bon, ça commence bien, vous voyez, on aurait dû rien dire. Vous avez passé beaucoup de temps aussi dans les banlieues pour savoir exactement comment ça se passait là-bas.
C'est
bon, pour comprendre, analyser, savoir, des choses qui vous appartiennent. Ouais. Évidemment, tout cela nourrit votre inspiration pour vos romans. En parlant de romans, de livres, donc c'est votre décoration chez vous, une bibliothèque qui prend tout un mur, finalement rien de surprenant. En revanche, quand vous vous mettez à écrire un livre, vous avez une caractéristique, vous mangez tout le temps.
Oui, ça c'est vrai.
C'est vrai ?
Ah, c'est drôle.
Votre âme de gourmande dépasse tout. Mais
ça
vous mangez
calme.
Tout le temps.
Non,
ça
mais vous
calme.
Savez quoi ? Dans le roman, la mère de Rose n'arrête pas de lui dire d'arrêter de bouffer.
Bah oui, non, c'est ça. Mais
donc en fait, c'est à vous, vous étiez en train de vous parler
non,
à vous-même.
Je pense que les filles ont tout un problème avec leur poids. Tout le monde, elles se trouvent toutes trop grosses. Ouais. Et je pense que quand on écrit, j'ai arrêté de fumer. Avant, je fumais.
Ouais, dingue.
Et comme j'ai arrêté de fumer, non, je mange.
D'accord. Mais racontez pas ça à la radio. Il ne faut jamais dire
mais
ça.
Mais c'est votre manière de vous concentrer et de compenser. Exactement. Aussi avec toute l'énergie que vous dépensez dans l'écriture. Pourtant, le rythme est soutenu. Vous écrivez plutôt l'après-midi ouais. et le soir en Normandie. Vous ne sortez pas, ne parlez pas à personne. C'est vous et votre écriture. Mais Catherine Pancol, il n'y a pas que ça. Vous avez un talent que tous vos proches aujourd'hui reconnaissent. C'est votre sauce de salade.
Ah oui, c'est vrai.
On s'y attendait pas.
Attends, on apprend ces trucs. C'est vrai.
Vinaigrette du monde.
Elle est mythique, oui. mais il est... impossible
pour
vous
la
dévoiler
d'ailleurs.
C'est
un plat.
On veut savoir
alors
comment vous la faites.
On veut savoir un ingrédient parce que c'est impossible pour vous
mais
de la dévoiler même sous la torture.
Ouais. Non. Je donne
un
pas.
Ingrédient.
Non, mais il y a un truc spécial.
De l'huile d'olive très très bonne.
Voilà, mais ça tout le monde le fait. Donc il y a un truc, il y a des trucs spéciaux.
Parce que c'est mon truc. Il y a un truc que je sais faire en cuisine. Un truc. Ouais. Donc je me le garde précisément, sinon plus personne va venir dîner chez moi.
Hélène.
Curieuse, bosseuse, secrète, quand vous ne travaillez pas, vous pouvez vous détendre devant The Wire ou dernièrement la série The Deuce. Vous êtes aussi une joueuse et attention, vous détestez perdre, Catherine Pancol. Vous ne lâchez rien. Et ça tombe bien en général puisque vous gagnez des nuits entière au backgammon, des jeux de cartes pour gagner contre les autres. Vous êtes capable de faire équipe avec votre famille pour lutter tous ensemble contre l'adversaire. Absolument. Ça a été le cas notamment à Londres quand vous êtes allé chercher votre fils. Vous avez donc déclaré un jeu de cartes, mais il ne fallait pas se retrouver en face des Pancol. Surtout pas. Vous ne lâchez rien et rien ne vous fait peur, notamment vous baignez dans une eau de 12 degrés en Normandie ouais. sans combinaison.
Ah oui, ça fait maigrir. Ouais.
Eh bien écoutez, je ne sais pas, mais ça conserve.
Un amour voilà, pour l'eau salée très prononcé. Et si on vous perd de vue, pas de panique, il y a votre chien, Boy, qui vous suit absolument partout. En parlant de Boy, justement, donc de garçon, il y en a un qui a été extrêmement important. Qu'est-ce que vous l'aimiez, Johnny Hallyday,
ah, oui.
on peut le dire.
Attendez, vous n'avez pas reconnu Johnny Hallyday, Catherine Pancol?
Non, j'attendais un vrai, quelqu'un qui rentre dans le studio.
Ah. Elle se croit à sacrée soirée.
Bah, Philippe, sortez et revenez ensuite.
Ah oui, Johnny.
Non, et pardon, vous savez qu'il est plus de ce monde, Johnny, il n'aurait pas
oui,
pu entrer
oui,
en plus.
Hein. Non, mais c'est pour ça que j'attendais. Voilà.
Ah oui, le sosie, par exemple.
Alors,
non,
vous avez été véritablement amoureuse de lui, vraiment dès l'âge de 20
fan.
Ans.
Ah non, j'ai commencé à 9 ans et demi.
Mais vrai, le sens amoureux, c'était vraiment votre modèle, vous en parlez. Tout le temps, ça a duré des années. Il vous fait tourner la tête, vraiment. Et parfois, c'est vous qui faites tourner la tête des autres. Lors des Olympiades d'Europe 1, il y a quelques temps, des chanteurs, un soir, se réunissent pour faire ce qu'on appelle un bœuf. Vous voyez, ils jouent de la musique tous ensemble. Et parmi eux, un homme vous chante sa chanson culte, yeux dans les yeux, sans jamais vous lâcher. Et oui, Serge Lama, il vous a fixé, Catherine Pancol, mais fixé véritablement pendant toute la chanson. Vous n'avez pas lâché le regard, vous avez tenu.
Oh non, mais tout le monde me regardait parce qu'il s'est mis à genoux devant moi et tout, c'est embarrassant comme situation.
Oh là là, et ça s'est fini comment ?
Ben, parce qu'on a repris l'avion, on est parti, c'était les Olympiades d'Europe. Hein.
D'accord.
Alors, en parlant d'avion, des Olympiades pardon, qui se sont terminées dans un aéroport pendant 8 heures, votre avion n'arrivait pas, vous étiez tous là, heureusement que le jeu du Gin Rami était là. Alors, Catherine Pancol, vous avez déclaré « Il faut être son propre prince charmant ouais. » et vous avez bien choisi.
Merci beaucoup Hélène, un commentaire.
Très bon, très très bon.
Très bon. Hein,
pour la politique, je suis désolée, mais on m'a donné cette information.
En plus, non, je connais rien et ça ne me passionne pas parce que je trouve que ça change tout le temps et ils
ah oui,
disent des choses qui ne sont jamais vraies.
Ah non, c'est pas vrai. Ah, ils disent des trucs qui se contredisent le lendemain.
J'ai commencé comme journaliste en suivant les hommes politiques et j'ai commencé, j'avais 20 ans et j'étais très naïve, je pensais que ce qu'ils disaient était vrai.
Ah oui.
Ça a été une telle désillusion.
Ah oui.
Que j'ai suivi, je m'en rappelle.
J'imagine, au bout d'une semaine, vous avez dû être déçue. Merci beaucoup Catherine Pancol, vous restez avec nous, on enchaîne.
Oui, on découvre nos indispensables du jour dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Dans un instant, on va parler de nos indispensables du jour avec Mathieu Charrier pour le cinéma et Thierry Geffrotin pour la musique et notamment de la mandoline. Mais avant, on revient à notre invitée Catherine Pancol pour son nouveau roman Bedbug aux éditions Albin Michel, Philippe.
Bedbug, est-ce que vous l'avez écrit comme les autres? Je veux dire, ce qui m'étonne le plus dans votre travail, Catherine Pancol, c'est que vous dites ne pas savoir ce que vont faire vos personnages. Vous écrivez vraiment au fil de la plume, y compris pour ce 19e et dernier roman. différent.
Oui, parce que si je sais ce que je vais écrire, je vais m'ennuyer. Je construis très bien les personnages, c'est-à-dire qu'ils sont vivants pour moi, et après je les lâche dans l'arène et je vois ce qu'ils font.
Mais quand, par exemple, quand Rose part à New York, quand vous démarrez le roman, vous ne savez pas qu'elle va avoir, qu'elle va devoir partir à New York.
Non, je suis dans l'instant présent, toujours, au jour le jour. J'écris au jour le jour. Mais c'est comme un feuilleton finalement, c'est pour ça que les gens, je pense, rentrent dedans et ne peuvent plus lâcher.
Mais est-ce que vous connaissez la fin ?
Non, je ne connais pas la fin.
Donc en fait, quand vous écrivez, vous êtes dans le même état que le lecteur, je vais dire les choses, puisque c'est une commande romantique, vous ne savez pas s'ils vont coucher ou non.
Non, absolument, je ne sais rien du tout.
Non, ça fait rire Thierry Géfrottin, parce qu'en général, dans les... Non,
mais Thierry, vous voyez... c'est toujours lui.
Mais oui, c'est toujours, parce qu'il ne voit que des œuvres qui ont deux siècles, donc on connaît la fin. Carmen, on connaît la fin.
Ouais. Non, j'essaie d'oublier.
Voilà. Et ça finit pas bien.
Voilà. Et alors, autre chose qui m'a frappé dans ce roman, c'est que vous jouez avec les codes de la collection Harlequin. Ça se passe dans le milieu paramédical, il y a un très beau type, il est américain, il arrive, il est célibataire, toutes les filles rêvent de lui. Et celle sur laquelle il va jeter son dévolu, c'est justement l'héroïne, celle que personne n'avait remarquée jusque-là, la souris grise qui se tape le Golden Boy. Ça vous a pas échappé ?
Non, ça m'a totalement échappé parce que je pense que c'est la vie, ça. Parce
que là,
vous dites qu'il est magnifique, il est ok bien, quoi. Non, c'est ce qu'elle dit, il est ok bien.
Oh, quand vous parlez de ça, je me suis dit, vous mettez des notes au mec.
Ouais.
Si un type faisait un roman dans lequel on met des notes aux filles, mais il serait lynché sur la place publique.
Elle ne met pas une note, elle dit qu'il est ok bien.
Ouais, il est ok bien. Il est bien
c'est
plus.
Pas... Non, elle dit justement que ce n'est pas le prince charmant parce qu'elle n'y croit pas du tout.
Mais les autres l'adorent. Toutes les autres
non,
le trouvent
beau. Non, mais parce qu'en ce moment, il y a un vrai problème de solitude féminine. Là.
C'est vrai ?
Beaucoup de femmes sont seules. Ah, ben oui. Ouais.
Vous dites ça pour vous ?
Je dis ça pour tout le monde. Je me mets dans le pot commun, mais je dis ça pour tout le monde. Je partage.
Vous aviez aimé La Boum ?
Oui, j'avais adoré La Boum.
C'est vrai ?
Ouais.
Qui avait fait la musique ?
Vladimir Cosma.
Vous êtes trop forte. Ouais. Vous avez vu cet enchaînement ? On lui doit les musiques de La Boum, de Rabbi Jacob, du Grand Blanc avec une chaussure noire, j'adorais. Ouais. La flûte, entre autres, Vladimir Cosma, toujours actif. Il est toujours là. Il s'est lancé, Thierry Géfrottin, dans une nouvelle aventure musicale. Il vient de composer des pièces pour mandoline solo.
Ah oui, c'est quelque chose. Hein. Alors, vous connaissez sans doute, peut-être deux noms en tout cas, les 24 caprices pour violon de Niccolo Paganini.
C'est un
très grand virtuose Paganini.
Ouais.
Pièce redoutable techniquement, écrite il y a tout juste 200 ans.
Ouais.
1819.
Écrite pour emmerder les gens parce que c'était dur à jouer.
Pas seulement, c'est
en
beau,
partie.
Hein.
Non mais en partie.
Ouais. Et bien 200 ans après, Vladimir Cosma a relevé lui le défi de composer 24 caprices, comme Paganini, mais pour la mandoline.
Mais ça, je connais, mais j'arrive pas à le situer.
Si, c'est Rabbi Jacob,
ah,
voyons.
Mais oui.
Mais oui. Mais évidemment, c'est à la mandoline, c'est réécrit. C'est le caprice numéro 12. Oui, c'est ça. Caprice numéro 12 en mi mineur. Ça n'a tant qu'à faire, on va tout dire.
Toutes ces pièces reprennent des mélodies connues.
Et c'est ça la très bonne idée. Vladimir Cosma a utilisé des thèmes que l'on connaît tous. Des musiques de films comme Le Jouet, Les Compères, Rabbi Jacob. Donc, des musiques de films et de séries de télé. Alors, au catalogue SACEM, il m'a dit qu'il avait 4000 compositions. Vous imaginez ?
Oh là là.
Et il les appelle ses enfants. Je trouve ça très touchant et vous allez comprendre pourquoi.
Je suis le père de ces musiques et je ne les lâche pas, quoi. C'est-à-dire que je trouve que... Un compositeur est là pour suivre ses enfants et pour les perfectionner, pour arriver à une forme qui lui semble la meilleure, même des musiques très très connues.
Et pourquoi la mandoline alors, Thierry ?
Pourquoi la mandoline ? D'abord parce que c'est une commande, figurez-vous, une sollicitation d'un joueur de mandoline, un mandoliniste, hein, comme on dit. Et en plus, Cosma est violoniste de formation et les deux instruments, il faut le savoir, se jouent de la même manière, ou presque.
La mandoline, c'est un violon sans archer, quoi. C'est un instrument que j'ai toujours aimé. Je me suis dit, voilà, il faut que je dédie une partie de mes matinées, de mes soirées et tout ça à cet instrument que j'adorais de toute façon.
C'est virtuose. Hein.
Ah, dis donc,
pas facile, c'est très difficile.
On retombe sur Paganini là.
Ah ouais, c'est très très difficile. Le violon c'est difficile, mais je peux vous dire que la mandoline, le pain est vite arrivé. Hein.
Ouais.
24 caprices pour mandoline seule, un beau cadeau donc qu'a fait Vladimir Cosma à Vincent Beurre-Demandeur, le joueur de mandoline évidemment très honoré.
On est en face d'un grand compositeur qui, en plus de ça, connaît excessivement bien l'instrument, parce qu'il est lui-même violoniste et qui connaît la mandoline. Donc, on s'est amusé à chercher tout ce qu'on pouvait faire avec une mandoline, de la percussion aux harmoniques, des techniques d'arpège. Ça a été un vrai bonheur.
Du grand blond, alors c'est une fugue là, Bach aura aimé. C'est pas la première fois d'ailleurs que Vladimir Kosma s'empare de ce thème pour en faire une fugue. Il y a aussi une grande suite orchestrale, une fugue à la mandoline, croyez-moi, c'est coton. Le disque est édité chez Larghetto et puis je vous signale, la création mondiale en concert aura lieu à la Salle Gaveau à Paris, ce sera le 20 novembre. Allez-y parce que c'est pas tous les jours qu'on entend de la mandoline et c'est pas tous les jours qu'on entend 24 caprices de Vladimir Kosma pour mandoline seule.
Merci beaucoup Thierry Jeffrosan, ça vous a plu Catherine
oui,
Pancol,
oui. Moi, je me souviens. Non, je me souviens d'un concerto de Vivaldi en sol.
Oui, il y a des concertos. Oui,
à la
exactement.
Qui est magnifique.
C'est... Ah oui, Vivaldi, là, il a composé Vivaldi, pour tous les instruments, y compris la mandoline. Et quand on connaît Vivaldi, il y a des notes.
Magnifique.
Oui, il y a beaucoup de notes.
Oui, il y a de la note.
Et Catherine, ça vous dirait de galocher? C'est pour vous. Voilà. Quand vous étiez sur la misère et la solitude, je me dis tiens, on va compenser ça.
Ça, c'est le rêve de tout le monde, ça.
Vous restez
les
avec nous.
Les slow, il y a
les
plus
slow. Ouais. Oui, il y a plus de slow.
C'est pour ça que les femmes sont seules, il n'y a plus de slow.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Thierry Jeffretin est toujours avec nous. Philippe, notre invité également, la romancière Catherine Pancol, qui vient nous parler aujourd'hui de son nouvel album, de son nouveau roman, 19e roman pour Catherine Pancol, qui s'appelle Bed Bug. Mais juste avant, on va continuer à faire le tour de nos indispensables du jour avec Mathieu Charrier qui nous parle de cinéma.
Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Alors trois films au programme aujourd'hui, le film de Nicolas Bedos, celui de Costa Gavras, très attendu, mais on commence avec Place des Victoires, porté par Guillaume de Tonquédec.
Oui, remarquable dans ce film et que l'on voit pour une fois dans un registre différent. Il joue Bruno, quadragénaire un peu abîmé par la vie, il a perdu son job, sa femme ne veut plus lui parler, surtout elle ne veut plus qu'il voie ses deux enfants, on ne sait pas très bien pourquoi d'ailleurs, bref, c'est pas la grande forme. Lorsqu'un jour, il se fait voler à l'arraché son portable dans la rue par un petit Roumain qui s'appelle Gagic. Ce portable, c'est le seul lien qui lui reste avec ses enfants. Alors Bruno va partir à la recherche de Gagic, le retrouver et commencer à nouer une vraie amitié, une vraie complicité avec ce petit garçon. L'un et l'autre vont se sauver, se tirer vers le haut en quelque sorte. Et l'histoire dans l'histoire, c'est que l'acteur qui joue Gagic, Piti Pouya, vient lui-même de la rue. Écoutez-les tous les deux.
Mon personnage, au début, le traite de Romano, de Vermine. Même il dit Vermine, il dit sale voleur, etc. Et il va s'apercevoir qu'il a affaire à quelqu'un peut-être de plus ouvert humainement. Et qui va lui apporter la survie, en fait. C'est un petit garçon qui va sauver, c'est David, et qui va aider Goliath. Hein. Et c'est un très joli parcours initiatique des deux personnages vers la lumière. Ce gamin, il a une lumière en lui incroyable, ce qu'a Piti dans la vie, quoi. Sans lui, sans Piti Pouya, nous ne pouvions pas faire ce film.
S'il n'y a pas Guillaume, nous aussi, on ne fait pas le film.
Ah, t'as vu, c'est pas beau, ça, hein. On est bon hein, en interview.
Alors franchement, ce gamin, il est impressionnant, hein, plein de poésie. Moi, j'ai découvert ce film au Festival d'Angoulême fin août. J'en attendais pas grand-chose et j'en suis ressorti enchanté. C'est aussi un film qui lutte contre les préjugés, un film positif. Et nous sommes fiers de le soutenir ici à Europe 1.
Et on l'a dit à Guillaume de Tonquédec quand il est venu dans l'émission lundi. Également en salle cette semaine, le nouveau film de Nicolas Bedos, ça s'appelle La Belle Époque. Ça parle de quoi?
Alors, figurez-vous qu'il y a une entreprise fondée par Guillaume Canet dans le film qui vous propose de revivre l'un des grands moments de votre vie. Par exemple, Philippe, quand vous êtes arrivé à Europe 1, eh bien cette entreprise va reconstituer les décors, le studio d'Europe 1 par exemple.
Il faut le refaire parce que c'était une autre rue.
Comédiens pour jouer les
c'était
rôles.
Ailleurs.
Voilà, justement, reconstitue avec des comédiens pour jouer les rôles de ceux qui étaient là à l'époque. Vous me suivez, vous revivez en fait la scène de votre vie que vous souhaitez. Et donc dans le film, on a ensuite Daniel Auteuil, dessinateur, qui joue un grand nostalgique, qui a peur du changement, du progrès. Il est en couple avec Fanny Ardant, mais ça va pas très bien parce qu'elle, à l'inverse, fait tout pour ne pas vieillir et être à la pointe de la technologie. Et donc, Daniel Auteuil va choisir de revivre, grâce à cette entreprise, la scène durant laquelle il a rencontré sa femme 40 ans plus tôt dans un petit troquet traditionnel.
C'est génial,
Fanny Ardant, jeune en quelque sorte, va être joué par Doria Tillier. Alors, film nostalgique ou pas, écoutez Nicolas Bedos et Guillaume Canet.
J'ai été très inspiré par l'idée d'un vertige face à la modernité. C'est un peu mon père, un peu ses amis, un peu moins. On est en train de vivre quand même quelque chose qui bouscule depuis quelques années maintenant, mais il y a une sorte d'accélération. Le film ne fait pas l'apologie du « c'était mieux avant ». Le film juste le constate. Constate que même des gens progressistes, eh ben, ils sont paumés. Donc cette idée m'est venue. Alors après, il a fallu trouver... Comment il repart dans le passé, Qu'est-ce que ça règle? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui va y vivre?
Il y a un côté, je trouve, très très vrai. On vit dans une époque aujourd'hui qui s'accélère de plus en plus, dans laquelle on ne prend pas le temps de vivre. On croise des potes dans la rue, on leur dit « Ah bah, j'ai pas le temps, mais je te texte, on se texte. » Et en fait, on se voit jamais, finalement. Et finalement, à vouloir tout vivre tellement vite, on ne vit pas.
Voilà, la belle époque qui nous interroge sur ce côté. Vous savez qu'on a un peu tous en nous, c'était mieux avant, et qui nous prouve que ce n'était pas forcément très vrai, et qu'il faut surtout vivre le moment présent. Esthétiquement, Nicolas Bedos prouve aussi qu'il est un grand réalisateur, avec de très belles images, une reconstitution du passé léché et lumineuse, c'est à voir.
Et puis on termine, Mathieu, avec le nouveau film de Costa Gavras, c'est Adults in the Room.
Alors on aime hein, Costa Gavras, mais il faut bien avouer que sur ce film, il m'a un peu perdu. On est dans la tragédie grecque, au propre comme au figuré, c'est-à-dire que Costa Gavras nous raconte les négociations, on s'en rappelle, entre l'Union européenne et Yanis Varoufakis, ministre de l'économie, vous rappelez de la crise grecque, de cette austérité imposée, austérité qui oublie toute humanité, ça Costa Gavras le montre très bien. On voit aussi les moyens de pression utilisés par les deux camps, par l'Europe et par la Grèce. Après, ça reste très technique, peut-être un peu trop technique. Il y a de grands moments de mise en scène et d'autres moments où Costa Gavras nous perd complètement et c'est dommage.
Merci beaucoup Mathieu Charrier. Vous êtes très cinéma, vous sortez beaucoup, vous allez voir des films, Catherine Pancol.
Je vais au cinéma, mais je regarde beaucoup de séries.
Ah oui
ouais.
Vous avez une série à nous recommander?
Dernièrement, j'ai découvert The Wonderful Mrs. Maisel. Qui est l'histoire d'une brave ménagère dans les années 50 à New York qui soutient ardemment son mari qui veut devenir un stand-up comédien et qui monte une fois par semaine sur scène et qui fait des vannes nulles et elle est là avec son petit carnet, elle prend des notes, elle lui dit tu peux faire ça mieux, mais écris ça mieux. Donc elle essaie vraiment de l'encourager et puis un jour il lui apprend qu'il se tire avec sa secrétaire, elle reste seule, elle picole, elle monte sur scène parce que son mari devait se produire, il y va pas et elle est tellement ivre morte que tout d'un coup elle fait un sketch, tout le monde applaudit et elle est tellement surprise parce qu'elle est tellement convenable, elle est tellement stricte, bien habillée que là elle s'est lâchée et c'est quand elle se lâche qu'elle est bonne et ça va, il y a des tas d'aventures qui vont découler de ce instant de folie sur scène.
Vous la connaissez Céline Dacosta?
Oui, j'adore cette série, la saison 2 là qui
la saison 2 arrive,
sortir,
voilà. Sur Amazon.fr
Amazon Prime.
Ouais, c'est ça.
Merci pour cette info Catherine Pancol.
Ouais,
vous restez
Mrs.
avec hein Céline aussi, vous restez.
Oui, avec plaisir. Suite et fin de Culture Média dans un instant avec notre invitée Catherine Pancol sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et c'est la dernière partie de Culture Média avec notre invitée Catherine Pancol qui publie chez Albin Michel son 19e roman Bed Bug, Philippe.
Oui, et puis mea culpa, je vais rectifier un chiffre, j'ai dit 2 millions de ventes pour votre trilogie Catherine Pancol, c'est pas ça, c'est beaucoup plus.
Oui, mais j'ai rien dit, je suis très modeste.
Bon, dites combien c'était, combien
7 millions en France.
Mon Dieu, chacun de vos romans fait entre 500 000 et 800 000 ventes pour situer un éditeur et très 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 heureux à partir de 10 000. Comment vous vivez ce succès? Est-ce que vous y êtes habitué ou est-ce que vous pincez à chaque fois?
Je ne me suis pas habituée du tout et je le vis très bien parce que je le mets à l'extérieur de moi.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que, par exemple, à la maison, on ne parle jamais, on ne parle pas de Catherine Pancol. Quoi.
Ah bon?
On parle de plein d'autres choses.
Ouais.
On n'en parle jamais avec mes enfants. C'est quelqu'un qui existe à côté de moi. La personne qu'on voit dans les médias. Sinon, moi, ce que j'aime, c'est la vie.
Ouais.
C'est la vie de tous les jours, c'est écouter, apprendre, entendre, aller voir, vérifier. Voyez,
à propos ça, d'écouter, j'adore. Les propos des mecs dans ce roman Bed Bug, c'est pas toujours politiquement correct.
Mais heureusement,
ouais.
On fait pas de la littérature avec des bons sentiments.
Je veux dire pourquoi je vous en parle, parce que dans une interview récente, vous dites avoir subi de nombreuses remarques sexistes dans votre vie.
Ouais,
est-ce que ça a changé? Est-ce que l'époque a changé avec MeToo ou pas?
Oui, ce qui a changé, c'est que maintenant on peut se plaindre. Avant, on vous disait c'est normal. Donc on piquait des sprints dans les couloirs pour échapper. Aux mains baladeuses. Maintenant,
ah ouais,
on peut. Je pense que maintenant, ça a changé. On peut prendre la parole et le dire.
Dans la presse, dans les maisons d'édition, c'était quoi les milieux dans lesquels vous travailliez?
Moi, j'ai fait le journalisme.
Ouais.
Et puis, non, la maison d'édition, c'est plus cool. Mais le journalisme, c'était quand même. Il fallait courir.
C'est vrai. Mon Dieu. Vous avez dit récemment, mon premier problème, c'était d'être blonde. Le second, c'est d'être mignonne.
Ouais.
Dans le milieu littéraire, les gens m'ont classée comme idiote.
Ouais,
vraiment,
absolument, absolument. J'ai eu une double dans VSD, mon deuxième roman, qui disait Catherine Pancol, deux points, une ravissante idiote.
Waouh.
Ouais, c'est un peu dur. Bon, mais bon.
Non,
en
ça
même
vous
temps.
Fait marrer, mais c'est quand même.
Bah, oui, bah, non, sur le moment, ça m'a pas fait marrer.
Un type serait allé avec une barre de fer tout cassé.
Oui, mais non, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ignore dans ces cas-là. Il faut ignorer.
Le silence punit l'insolence.
Exactement.
Et le harcèlement?
Le harcèlement, je l'ai vécu très jeune. Maintenant, ça se calme parce que je suis beaucoup moins jeune. Mais ça a été un vrai problème, un vrai problème.
C'est vrai.
D'ailleurs, moi, je suis devenue journaliste à la suite parce que je travaillais pour payer mes études. Je travaillais, donc j'étais inscrite dans une agence intérimaire.
Ouais.
Et je suis devenue journaliste parce que j'en avais marre, justement, de carrément me faire renverser. Les types, ils vous renversaient. Mon dernier boulot, le type m'a violée. Et là, je me suis dit, je n'en peux plus. Et donc, je suis allée le voir. Je l'ai menacé. J'ai dit, vous me donnez 6 mois de salaire d'avance. Et j'avais tellement la rage que je suis sortie avec mon chèque et que je pleurais sur le trottoir. Et là, j'ai un copain, Dominique Farran, qui est mort hier, le fils de Jean Farran, RTL, et que je connaissais, qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu as ? Tu vas pas bien ?» J'ai dit « J'en ai marre, je peux plus. » Et il m'a dit « Va voir papa. » Et je suis allée voir Jean Farran, qui m'a fait rentrer à Paris Match. Donc c'est grâce à un viol que je suis devenue journaliste, moi.
C'était une entreprise de quoi ?
Moi, j'étais la moi, il me fallait des boulots que je fasse pendant le week-end, puisque je travaillais, j'étais étudiante en semaine. Et comme je parlais couramment anglais, je faisais interprète pour un directeur d'agence de mannequins.
D'accord.
Donc, on partait dans les pays scandinaves et je faisais les interviews. Pourquoi vous venez à Paris ? Combien vous mesurez ? Vos parents sont d'accord ?
Pardon de dire ça, mais je ne m'attendais pas à cette franchise. Je ne m'attendais pas à ce que vous me racontiez comme ça, un viol ex
nihilo. Parce que je pense que c'est le quotidien de beaucoup de femmes. Et que je pense que avant, on n'en parlait pas, il ne fallait pas en parler. Et c'était normal. C'était la banalité des femmes. Maintenant, au moins, les femmes peuvent parler, et tant mieux.
Ça s'appelle Bed Bug. C'est pas facile d'enchaîner avec ça. Il n'y a pas de viol dans ce livre. Quoi qu'il ne faut pas que je raconte tout, il ne faut pas que je dise tout. C'est chez Albin Michel. C'est le 19e roman de Catherine Pancol. Merci d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. On sera avec Fabrice Bailly, le patron des programmes de TF1, et Jeff Panaclock. Et je ne sais pas s'il vient tout seul ou s'il vient avec sa marionnette. J'ai toujours pas eu la réponse. Thierry Geoffrotin était, lui, venu tout seul sans sa marionnette. Céline Dacosta également. Et moi aussi. Merci à toutes et tous. Merci encore, Catherine.
Merci.
À demain.
À demain, Philippe Bondel. Anne Roumanoff arrive dans un instant avec sa bande et leurs invités aujourd'hui, Raphaël Antoven et l'humoriste Laura Cadu.